Voici la présentation par l'auteur Jean-Louis Vieillard Baron de son livre « Le spiritualisme français » paru aux éditions du Cerf en 2021. Jean-Louis Vieillard Baron était invité par la conférence Sainte-Catherine d'Alexandrie.
Donc, nous réunis aujourd'hui pour inviter monsieur le professeur Jean-Louis Vieillard Baron. Vous avez vu dans le synopsis que M. Vieillard-Baron était professeur émérite de l'Université de Poitiers. Vous avez vu également qu'il était, qu'il donnait une charge de cours à l'Institut catholique à Paris. Et vous avez vu surtout son œuvre immense dans le domaine de la présentation de la philosophie allemande, de l'idéalisme allemand, en particulier Fichte, Hegel, et également la philosophie française, Bergson. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la présentation de son approche du spiritualisme français. Alors, si la conférence Sainte-Catherine d'Alexandrie a invité M. Vieillard-Baron, c'est également aussi parce que nous avons vu qu'il était membre de l'Académie catholique et que, à ce titre-là, ça nous semblait judicieux aussi de le faire venir. Et j'ai oublié aussi que vous étiez président de l'association Louis Lavelle. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de Louis Lavelle également. Eh bien, professeur, je vous laisse la parole.
Alors, je vous remercie d'abord de m'avoir invité pour présenter mon livre qui a été terminé dans l'année 2021 et qui est sorti des éditions du Cerf juste au début de l'été. Et donc, c'est une bonne occasion de parler un petit peu à la conférence Sainte-Catherine. Donc, si j'ai eu l'idée de faire ce livre, c'est parce qu'il n'y avait aucun ouvrage synthétique sur le courant spiritualiste et en particulier sur le spiritualisme français du 19e siècle, c'est-à-dire ce mouvement que j'essaie de comprendre d'une manière unitaire, enfin avec un fond commun qui est celui de l'affirmation de l'immortalité de l'âme et de l'existence de Dieu. Ce spiritualisme français, il commence évidemment bien avant d'émerger clairement. Il commence avec Maine de Biran. Maine de Biran est un philosophe très particulier parce que il n'a pratiquement rien lié de son vivant. Donc, les contemporains ne pouvaient pas le connaître, sauf les quelques rares qui venaient à des réunions où il y avait 4-5 personnes à Paris, à l'École normale supérieure, quand elle existait. Et elle a été supprimée à un moment par Napoléon Ier. Donc, bon, Maître de Biran, il avait fait un mémoire. On pouvait le connaître par ce mémoire sur l'influence de l'habitude sur la faculté de penser. Alors, c'était un mémoire qui était tout à fait dans l'esprit des philosophes du XVIIIe siècle qui sont appelés les idéologues. Donc, cette appellation est péjorative, mais en réalité, il y a de bons philosophes dans ces idéologues, il a fallu que le sens émerge, donc d'une façon radicale, en se distinguant de l'idéologie. Alors, bon, ça, c'est le point de vue historique sur lequel je vais revenir. Sur le plan personnel, J'ai connu, moi, deux spiritualistes quand j'étais étudiant. Il y avait Jacques Chevalier qui est mort le jour de mes 18 ans, donc à Céry, où il était né, c'est-à-dire dans l'Allier. Et puis Jean Guiton, qui enseignait à la Sorbonne et qui faisait des leçons sur Bergson quand moi-même j'étais étudiant. Bon, ça ne veut pas dire que l'influence des spiritualistes se bornait à ces deux personnages, parce que, en fait, il y avait une influence discrète, secrète. Moi, j'avais un manuel de philosophie quand j'étais en terminale qui était tout à fait spiritualiste. Huysmans et Vergès, ça culminait au point de vue philosophique avec Vladimir Jankélévitch, qui est un des derniers élèves de Bergson survivant, que j'ai connu aussi, bon, et qui avait une chaire de philosophie morale à la Sorbonne. Donc, le courant spiritualiste a connu au travers du 19e siècle bien des tourments et au 20e siècle, il reste encore à écrire son histoire. Mais le courant spiritualiste s'est très bien accommodé de la phénoménologie et de l'herméneutique, la philosophie d'existence aussi. C'est-à-dire que pour les spiritualistes, ce qui est paru véritablement opposé à leur manière de philosopher, c'est l'anthropologie à la manière de Lévi-Strauss, c'est-à-dire le parti pris de penser essentiellement la vie sociale et les symboles de la vie collective. Et puis, ce qui est paru aussi radicalement opposé, c'est le matérialisme. Et donc, l'herméneutique de Ricoeur est apparue au contraire comme une sorte de conciliation finale entre la phénoménologie proprement dite et le spiritualisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre phénoménologie et spiritualisme? Ça n'a pas été très bien étudié, mais c'est la notion du sujet. Hein, c'est que ces philosophies partent de la conscience subjective. Et ça n'est pas le cas, évidemment, de toutes les philosophies sociales ou anthropologiques à la manière de Lévi-Strauss et de son successeur, qui a été évidemment encore plus connu que Lévi-Strauss, qui est Michel Foucault. Mais donc ça ne m'a pas donné envie du tout de m'orienter dans cette direction-là. J'ai recherché les débuts du spiritualisme, donc Maine de Biran, et la thèse qui dominait à l'époque de Maine de Biran, c'était celle que les idées étaient des sensations transformées. C'est-à-dire qu'il y avait que tout dépendait de la sensation. Ce qui est la thèse de Condillac, la thèse idéologique de base. Et alors, il y a deux philosophes très peu connus qui ont assuré une espèce de transition entre l'idéologie proprement dite, qui est surtout à la fin du XVIIIe siècle, et le spiritualisme. Ces deux philosophes, il y en a un qui a été nommé, il était plutôt magistrat, plutôt juriste, c'est Royer Collard, qui a écrit des très belles pages sur la durée, dont peut-être Bergson s'est inspiré, encore que Bergson n'y renvoie pas. Et puis un autre qui était un grand orateur, mais qui n'a pas laissé une réputation de grand philosophe, qui était La Robéyère. Alors ces deux-là ils sont à cheval entre la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française, et puis le tout début du XIXe siècle. Et La Romillière a fait des cours, c'est lui qui a convaincu Victor Cousin de faire de la philosophie. La Robinière a critiqué la thèse de la sensation transformée, c'est-à-dire que pour lui, le concept ou l'idée ont une indépendance à proprement parler. Bon, si on veut écrire l'histoire du mouvement spiritualiste, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a le problème de la limitation. Alors, j'ai choisi dans mon livre là, de partir de Maître de Biran et d'aller jusqu'à Boutroux, c'est-à-dire 1921. Boutroux est mort en 1921, mais enfin son œuvre est antérieure. Hein. Et donc ça, ce sont les deux limites d'un des problèmes qui se posent, mais il y a le problème de la continuité. Est-ce que le mouvement spiritualiste continue ou bien est-ce que c'est un mouvement discontinu? Quand on fait un dictionnaire, on n'a pas ce souci-là. Dictionnaire, c'est par principe discontinu. On fait des entrées qui correspondent à tel auteur, à tel auteur, et on ne se soucie pas de savoir s'il y a des relations entre ces différents interlocuteurs. Alors, dans le cas de Maître de Biran, on est en face d'un cas très intéressant, c'est-à-dire d'un homme qui est très discret, à la limite très fuyant, qui était sous-préfet de Bergerac et qui venait à Paris régulièrement discuter avec d'autres philosophes dont on ne se souvient plus guère, comme Gara ou Tracy. Estude Tracy était un noble bourbonnais d'origine irlandaise, si je me souviens bien, qui était un philosophe matérialiste, mais très fin, et dont les éditions Vrin ont repris toutes les œuvres. D'Estude Tracy est bien servi du point de vue de l'édition. De quoi est-ce qu'il parlait avec Maître de Biran? Il parlait de savoir ce qu'était le sentiment intérieur, la conscience intime. Et bon, ce sont des discussions dont on n'a pas vraiment beaucoup la trace. Mais aujourd'hui, grâce à François Zouvi, il y a une grande édition des œuvres complètes de Maître de Biran. Et sur Maître de Biran, il y a de très bons travaux. Il y a un très joli petit livre, plein de photos, qui a été fait par Henriet, qui est Maître de Biran par lui-même. Livre qui est paru en 70, et puis livre beaucoup plus récent, mais moins illustré, c'est celui de Anne de Varieux, Maître de Biran, l'individualité. Alors, la découverte du spiritualisme avec Maître de Biran, c'est la découverte de l'intériorité, du regard intérieur, de l'introspection comme méthode de connaissance, non égotiste, objective, c'est-à-dire de l'introspection au sens où Bergson la rencontre. Et puis, alors, quand j'ai eu fini d'écrire le livre Spiritualisme français, je me suis aperçu que j'avais un peu négligé la philosophie romantique, d'une part, parce que bon, la philosophie dominantes, les grands noms sont plutôt rationalistes. Et puis j'avais un peu négligé aussi le dernier des spiritualistes officiels avant le XXe siècle, qui est Émile Boutroux. Émile Boutroux est mort en 1921. Mais enfin, son œuvre est quand même autour de 1900. Alors, Émile Boutroux nous a au rapport avec la philosophie anglo-saxonne, ce qui est pour les Français quelque chose de neuf, parce que vous savez, la philosophie langue anglaise, pour les philosophes français, c'était Locke, principalement Locke, Hobbes et Hume. Mais c'était plutôt les empiristes dont Hobbes ne fait pas vraiment partie. Alors, les philosophes que vous connaître par un grand texte qui est un très beau récit, c'est celui des philosophes écossais. Glasgow et Édimbourg, les universités écossaises qui ont influencé beaucoup la philosophie française par leur idée philosophie sur le témoignage du sens commun et que elle ne doit pas se limiter à une étude qui ne concernerait que les spécialistes. Boutroux a pris exemple de ces philosophes. Alors, certains sont complètement oubliés. Ravaisson même se moquait un peu de cette philosophie écossaise. Mais enfin, ce sont les successeurs non sceptiques de Hume. Apparemment, ils ne sont pas très tournés vers Locke. Enfin, bon, ce que Boutroux nous a appris, c'est qu'il fallait respecter cette philosophie fondée sur l'expérience de l'observation intérieure. Les Écossais mettent au même niveau l'observation intérieure et l'observation extérieure. L'observation extérieure, c'est l'observation de l'expérience scientifique ou de l'expérience perceptive commune. L'observation intérieure, c'est quand même tout autre chose. C'est la conscience de soi. C'est le fait d'examiner de manière objective, si on peut dire, ce que l'on ressent. Et donc, c'est la science de ce que le 19e siècle français appelle les états de conscience. Quand vous lisez Bergson, vous trouvez beaucoup cette expression d'état de conscience qu'aujourd'hui, on n'utilise pas vraiment. En général, on parle de vécu, d'expérience vécue, mais pas d'état de conscience. Bon, y a une différence philosophique, d'attitude philosophique qui est importante et sur laquelle on pourra revenir. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait de la philosophie romantique? Ben, je l'évoque par moments. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe romantique dans les premiers spiritualistes français, c'est Théodore Jouffroy. Théodore Jouffroy a eu une vie assez malheureuse. Il a été privé de son enseignement par l'autorité gouvernementale et il a fait cours dans sa chambre devant une trentaine de personnes au maximum. Il a continué à faire cours. Puis ensuite, il a récupéré un statut académique. Donc, Jouffroy, ce qui l'intéresse, c'est le sens de l'existence humaine, c'est le sens de la destinée spirituelle de l'homme. Et il n'a pas fait de livre synthétique, mais il a écrit ce qu'il appelle des mélanges philosophiques qui sont republiés dans la collection qu'a initié Michel Serres, donc la collection Fayard, qui n'est pas une collection scientifique, mais qui est une collection de réédition sans notes et sans commentaires, de textes introuvables. Et c'est très précis en soi. On a critiqué à tort Michel Serres d'avoir fait ce travail, mais en réalité, grâce à lui, la collection Corpus philosophique présente des textes qui ne sont pas dans les bibliothèques ou rarement. Et donc, c'est le premier philosophe romantique au sens où il est très préoccupé par la question de la destinée et par le suicide. Donc, dans le romantisme, il y a cet élément d'inquiétude sur soi qui est un élément immuable, c'est-à-dire qui fait le caractère inéluctable du romantisme. J'ai complètement zappé, comme on dit, Jules Lequier. Jules Lequier, c'était un philosophe qui, lui, s'est suicidé. Et il est mort par noyade. Mais c'est un philosophe breton qui a eu pour ami et élève Renouvier, qui est un homme qui a énormément écrit. Mais Jules Lequier a laissé des pas poético-philosophiques sur la feuille de charmille, sur c'est-à-dire l'individualité du vivant. Et son élève, Renouvier, a tenu à publier ses œuvres à titre posthume. Et donc, je l'ai négligé. Évidemment, on ne peut pas tout traiter. Je n'ai pas mis l'accent sur le romantisme philosophique. Il y a aussi Lamennais, la cité de Lamennais, qui est très connue des historiens de la religion qui ont travaillé sur le XIXe siècle, parce que Félicité de Lamennais était un prêtre breton, philosophe avant tout, voire le pape, à Rome, et qui se proposait de réconcilier l'Église catholique avec la modernité. C'est-à-dire que il est allé voir le pape pour lui dire « Je vous propose un pacte du catholicisme avec le monde moderne. » Et le pape a commencé par ne pas le recevoir et ensuite s'est moqué de lui et l'a renvoyé en lui disant qu'il n'avait pas besoin de lui. C'est-à-dire qu'il a été très maltraité. Il a été humilié. Évidemment, sa prétention réconcilier l'Église catholique avec le monde moderne, c'était une prétention énorme. Mais en réalité, Lamennais était traditionnaliste, mais il était démocrate. C'était un cas typique de l'époque du début du XIXe siècle. Alors, Lamennais a été renvoyé. Donc, il a rompu avec l'Église catholique. Ça a beaucoup plu au public de l'époque, parce que, le public de l'époque avait des aspirations religieuses très fortes, mais en même temps une défiance très grande à l'égard du clergé. Alors, bon, ça a fait sa célébrité. Ce n'était pas un philosophe extraordinaire. Enfin, les textes qu'il nous a laissés, le système de philosophie de Lamennais, n'est pas de première qualité. Ce n'est pas du tout la finesse philosophique de Ravesson, qui est lui un grand esprit au point de vue philosophe. Ce n'est pas la finesse non plus de Maine de Biran. Hein. C'est bon. C'était une philosophie qui aurait mérité d'être mieux traitée. Bon, alors, je bats ma coulpe et je regrette un livre en appel d'autres. Il faudrait compléter ce livre-là qui est déjà assez gros hein, et assez long à lire. Il faudrait le compléter par quelques chapitre sur la philosophie en romantique. Romantique, proprement dit. Parce que c'est vrai que Lamennais, c'est le drame romantique de la rupture avec l'Église catholique qui a perturbé fortement le 19e siècle français jusqu'à la venue de Napoléon III, jusqu'au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III. Alors, cet élément mis à part, il y a eu, évidemment, dans le cours du XIXe siècle, une rupture très forte, qui est celle de la Révolution 1848. C'est un échec. Un échec sanglant, c'est-à-dire que la plupart des philosophes espéraient une génération sociale et une philosophie de la liberté. Or, du point de vue populaire, ça a mal tourné, c'est-à-dire que l'épisode douloureux a été celui de l'échec de ses aspirations. Lamartine était un bon représentant de ce que la population française pouvait souhaiter, donc un retour à la liberté, un avènement de la démocratie qui avait été respecté de plus ou moins loin par le règne de Louis-Philippe. De manière tout à fait démocratique, comme ça arrive pour toutes les dictatures, de manière tout à fait démocratique, Napoléon III s'est fait élire président de la République, avec une majorité incroyable. C'est-à-dire que, manifestement, le mythe napoléonien fonctionnait et c'est Napoléon III qui l'a emporté sur toutes les autres aspirations. C'est-à-dire un rêve de grandeur pour le peuple français. Parce que la grande armée de Napoléon Ier avait été une espèce de sauvegarde de l'acquis de la Révolution française. Et donc, les paysans français qui faisaient partie de cette grande armée, qui étaient conscrits par force, hein, qui n'avaient pas le choix, ils étaient enthousiastes du grand chef qui est Napoléon Ier. C'est-à-dire qu'ils ont porté au peuple d'Europe, jusqu'en Russie, le message libertaire de la Révolution. Et donc là, il y a eu un échec absolument sanglant parce que Napoléon III a pris le pouvoir et il l'a exercé, il a commencé par supprimer la philosophie de l'enseignement. Donc, bon, Ensuite, il s'est rendu compte que c'est de se maintenir comme ça dans une attitude despotique, et il a rétabli à la fin de son règne, c'est-à-dire peu avant la guerre de 1870, il a rétabli la philosophie comme étant nécessaire à la formation des esprits. Et l'agrégation de philosophie a été rétablie en 1867, etc. Donc, on voit bien, quand on regarde d'un peu près, que l'évolution du spiritualisme français, sans être à proprement parler une pensée politique, est très liée aux événements politiques que la France a traversés. Et le 19e siècle est un siècle d'instabilité. Hein, non seulement il y a des émeutes, il y a des révolutions, la révolution de 1830, la révolution de 1848, mais il y a des émeutes entre ces révolutions et il y a des épisodes extrêmement dramatiques qui montrent que la France est divisée au point d'assumer la guerre civile comme ça a été le cas dans la Commune. La Commune de Paris a été une forme de guerre civile qui s'est finie par une fusillade sanglante qui a laissé un grand souvenir tragique dans le peuple parisien. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec la philosophie proprement dit, hein, parce que la philosophie n'est pas chargée de régler les problèmes du monde. Mais ça a quand même une influence en ce sens que le spiritualisme français n'est pas totalement indemne de tout ce qui se passe au point de vue des événements du monde. Ça se reproduira avec une guerre civile larvée, mais enfin pratiquement aussi forte au moment de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire dans un régime qui est à la fois démocratique, laïque, républicain, et qui est porté sur les fonds baptismaux par Jules Ferry, qui évidemment a un rêve d'expansion et qui est très marqué parce que c'est la Troisième République qui a enfin pris en compte l'ambition coloniale de la France. Et donc, Jules Ferry estime qu'il faut... Il faut diffuser l'esprit de liberté qui est l'esprit du spiritualisme français. Mais évidemment, il s'est trompé sur les moyens et cette ambition elle-même était fondée sur l'idée d'une supériorité absolue de la culture française et de la culture européenne, mais surtout française, hein. Dans le monde. Alors, voyez comment, étant de présenter le spiritualisme français depuis le tout début du 19e siècle, jusqu'à la fin avec la guerre de 14, qui a été un événement tragique, c'est-à-dire ça a été vraiment un suicide de la part de l'Europe. Donc, le spiritualisme français, dans ce cadre, dans cette limite-là, essaie d'exprimer comment la philosophie doit maintenir l'immortalité de l'âme et deuxièmement, l'existence de Dieu comme étant des vérités qui peuvent être démontrées par la raison. Pardon. Alors, sans un peu plus de détails, il y a un grand philosophe français qui est l'ennemi désigné des spiritualistes, c'est Auguste Comte, c'est-à-dire le positivisme. Parce que l'idée d'Auguste Comte, qui n'est pas acceptée par les spiritualistes français, l'idée d'Auguste Comte, c'est que la vérité scientifique est absolue, dominante, et elle est absolue. Et l'esprit en quête de réflexion doit accepter cette domination radicale, le travail philosophique consistant essentiellement à classer les sciences entre elles, la classification des sciences, et puis à refuser toute dimension métaphysique, puisque la loi des trois états, c'est que nous arrivons, nous, maintenant, c'est-à-dire vers 1850, nous arrivons à l'âge scientifique. Mais l'âge scientifique suppose qu'on ait d'abord connu l'âge religieux, puis l'âge métaphysique. Donc, il y a trois états et il y a une nécessité d'avancer vers l'état positif ou scientifique. Et Auguste Comte a défendu ce point de vue avec beaucoup de richesse d'informations, etc., en même temps qu'un philosophe anglais qui était Herbert Spencer, qui défendait aussi le fait qu'il n'y a de vérité que scientifique et que la tâche de la philosophie, c'est de mettre en ordre les sciences qui ne se mettent pas en ordre toutes seules. Le repoussoir par rapport aux spiritualistes français. Mais ce repoussoir n'a pas imposé sa loi de façon tout à fait péremptoire. Victor Cousin avait, lui, imposé une philosophie officielle qui était spiritualiste et historique. Auguste Comte n'a jamais réussi à pénétrer dans l'université. Le positiviste universitaire de l'époque d'Auguste Comte, enfin, c'est Littré. Littré était un savant philologue qui a laissé le dictionnaire Littré de la langue française, hein, le grand dictionnaire, le premier dictionnaire scientifique. Mais il n'avait pas une philosophie originale. Alors, ce que les spiritualistes français ont opposé à Auguste Comte, c'est d'une part la philosophie de Ravaisson, d'autre part la philosophie de Lachelier. Et qu'est-ce qu'elles disaient, ces philosophies? Eh bien, d'une part, le fait que la liberté de l'esprit ne se laisse pas encadrer d'une façon aussi forte que le pouvait croire Auguste Comte, et puis d'autre part, qu'il y avait un héritage cartésien à préserver. Alors, bon, Lachelier, les trois grands spiritualistes qu'on connaît en général sont, d'une part, Lachelier, Ravaisson, Lachelier, Boutroux. ne sont pas des philosophes extrêmement connus. En fait, ils sont moins connus que Hegel, Kant, les grands philosophes allemands de la même époque, ou à peu près. Enfin, encore que bon, le dernier philosophe allemand qui a été dans cette mouvance assez connue, c'était Cassirer. Mais Cassirer, c'est plutôt son œuvre est plutôt au XXe siècle. Avant Cassirer, les philosophes spiritualistes français sont essentiellement influencés par Lachenier. Alors Lachenier, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont lu des textes de Lachenier ou des pages de Lachenier. J'ai l'impression que Lachenier, il a un peu disparu de l'horizon. Lachenier, c'est un philosophe qu'on a dit kantien, mais il est influencé par Kant. Il n'est pas kantien strictement, mais il est typique de la philosophie réflexive. C'est-à-dire que pour Lachenier, la tâche de la philosophie, ce n'est pas de se renseigner sur le monde extérieur, sur la connaissance du monde extérieur, c'est le fait de, comment dire, d'épurer l'idée de façon qu'elle soit cohérente et déterminante. Alors Lachenier avait un grand prestige, hein, et c'était une autorité intellectuelle. Mais il n'a pas de doctrine. Et ça, évidemment, c'est un petit peu une infériorité par rapport à Husserl ou par rapport à Heidegger. Le fait qu'il n'y ait pas de doctrine, ça reste insatisfaisant. Alors, bon, moi, j'ai pratiqué, si vous voulez, un principe démocratique concernant la philosophie elle-même, c'est-à-dire que j'ai fait une large place à des philosophes secondaires qui quelquefois ont une œuvre très intéressante, mais qui ont été laissés de côté, comme Lamennais avait été laissé de côté par l'Église catholique. Alors, en fait, dans la table des matières du livre, vous trouvez des philosophes dont certains sont très peu connus. C'est ce que j'ai appelé la première école éclectique. L'éclectisme, c'est l'école philosophique fondée par Victor Cousin, qui est une variété de spiritualisme, mais non dogmatique. Et la première école éclectique, elle est composée de trois philosophes ici, Garnier, Damiron, Franck. Bon, personne ne les connaît, hein. Pas plus moi que les autres. J'ai été obligé d'aller voir. Alors, Adolphe Garnier, pour prendre un exemple, le premier, il a écrit une énorme psychologie. C'est-à-dire que ça s'appelle la philosophie des facultés de l'âme. Alors, c'est une analyse des facultés, un petit peu à la manière d'Aristote, hein, c'est pas, mais elle n'est pas très stimulante, c'est pas très inventif, parce que, si vous voulez, il n'en ressort pas grand-chose. Alors, Damiron et Franck, c'est encore moins inventif. Mais il y a un problème que ces philosophes secondaires posent, c'est de savoir est-ce qu'une philosophie séparée est possible ou non. Alors, philosophie séparée, ça, c'est un terme qui, au XIXe siècle, avait du sens et qu'on retrouve chez Maurice Blondel, par exemple. La philosophie séparée, ça veut dire la philosophie qui ne dépend pas de la théologie. C'est la philosophie autonome. Alors, est-ce que cette philosophie séparée peut être indépendante? Ça n'est pas totalement évident, mais c'est un des problèmes du temps. C'est que la spiritualité de Maine de Biran, qui était essentiellement fondée sur la supériorité humaine et la valeur de l'individu, cette spiritualité de Maine de Biran, elle est forcément séparée. Elle ne repose pas sur un dogme religieux quelconque. De quelque religion que ça puisse être. En général, quand il ne précise pas dans ce cas-là, c'est toujours la religion catholique en question. C'est pas simplement le christianisme en général, mais c'est la religion catholique comme religion dominante dans la France de l'époque. Et les aspects secondaires de la religion, c'est-à-dire sa place sociale, etc., sont subordonnés aux dogmes religieux. Alors, les spiritualistes dans leur ensemble sont des partisans de la philosophie séparée. C'est-à-dire que aucun, certains étaient prêtres hein, et ont été persécutés à ce titre des deux côtés, à la fois par les laïcs et par les religieux, mais aucun ne voulait admettre que la philosophie était, comme le disait le Moyen Âge, la servante de la théologie. Ils étaient tous pour l'indépendance totale de la philosophie. Alors, bon, je n'insiste pas davantage parce qu'on pourrait évidemment développer, je l'ai développé. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir quand même, et quand même l'heure s'avance. Il y a d'une part le fait que la philosophie a une place hors institution. C'est-à-dire que il y a une philosophie chez les historiens, Michelet ou Edgar Quinet, d'autant plus que Michelet a fait des cours de philosophie qui sont aujourd'hui publié en champ flammarion, c'est-à-dire en livre de poche. Et puis, Edgar Quinet, qui est plus un auteur engagé, un historien, mais un historien politique. Donc, tous ont une prétention philosophique. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. La philosophie, dans l'époque spiritualiste, réservée seulement à certains. Et puis alors, il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est que j'ai utilisé un concept historiographique qui est pas très, très répandu, qui est celui de constellation. Parce que la notion de constellation philosophique me paraît tout à fait intéressante. Cette notion de constellation, elle a été mise en évidence par un Hegélien, historien de Hegel et en particulier connaisseur des débuts de l'idéalisme allemand, qui est Dieter Heinrich. Alors, Dieter Heinrich a fait un beau livre qui s'appelle Constellation au pluriel, et Ce qu'il montre, c'est qu'on ne peut pas expliquer les mouvements historiques, les révolutions historiques de la philosophie sans faire appel à ce qui ressemblerait un peu à ce que nous appelons réseau, c'est-à-dire à des interrelations qui déclenchent des événements inattendus. Alors, ce que Dieter Heinrich a pris comme point de départ, qui est un point de départ très, très évident, c'est qu'après la condamnation de la métaphysique par Kant, qui dit la métaphysique est une science impossible, il dit c'est comme une fiancée perdue à laquelle on revient volontiers, mais la métaphysique prétend présenter comme savoir objectif des vérités qui dépassent les limites du savoir possible. Si connaissance ne va pas jusqu'à nous montrer de manière parfaitement objective que Dieu existe ou que l'âme est immortelle. Donc, ce que le spiritualisme prend comme objet est illégitime. C'est un effet de trompe-l'œil, et pour Kant, ça ne veut pas dire qu'on peut se débarrasser de ses problèmes, mais ça veut dire qu'on reste dans l'incertitude. Alors, Heinrich a été frappé par le fait qui frappe tout le monde, que aussitôt après cette condamnation critique de la métaphysique par Kant, a ressurgi d'une façon encore plus forte qu'avant, la métaphysique telle que l'ont présentée Schelling et Hegel. Donc, comment est-ce que ça se fait? Elle a repris une nouvelle vitalité. Le concours d'un poète qui était Hölderlin, et Hölderlin, Schelling et Hegel ont été élève en même temps au Stift de Tübingen, qui était une fondation de type universitaire qui donnait une formation de haut niveau, ils ont été en même temps élèves de cette fondation et ils ont produit des textes métaphysiques, les premiers textes Elle est un livre sur la différence des systèmes de Fichte et de Schelling. Bon, et ces textes-là ne tiennent aucun compte des interdictions kantiennes de philosopher sur des objets qui nous échappent. Alors, Dieter Heinrich a inventé ce concept de constellation pour dire voilà ce qui s'est produit au Stift de Tübingen. Il y a eu des conflits très forts entre kantiens et anti-kantiens. C'est en particulier non pas la critique de la raison pure qui a déclenché ces conflits, mais de Kant de 1793, qui est la religion à l'intérieur des limites de la simple raison. Ce texte qui est assez ambigu, en fait, et qui dit, bon, la religion est possible en ce sens que une religion savante mérite d'être considérée comme savante. Et c'est le cas de la religion juive, de la religion chrétienne. C'est-à-dire, ce sont des religions savantes parce qu'elles s'appuient sur la Bible, c'est-à-dire sur des livres qui sont eux-mêmes soumis à la critique. Alors ça a déclenché de grands mouvements parce que la question c'est de savoir est-ce que la philosophie mène au scepticisme, à l'athéisme ou non? Est-ce que la philosophie peut avoir un rôle dans la constitution d'un savoir métaphysique proprement dit. Et ce que Dieter Heinrich a mis en évidence, c'est l'influence des répétiteurs philosophes au Stift de Tübingen, en particulier Karl Dietz. Le dénommé Karl Dietz, que Dieter Heinrich a étudié dans un livre particulier, il s'est finalement suicidé après avoir eu énormément d'hésitations sur le chemin à suivre. Il avait commencé en philosophie et théologie, et puis il s'est réorienté vers la médecine, qui ne lui a pas vraiment donné satisfaction, et il a fini par se suicider. Il a vécu un drame théorique intérieur. Alors, cette notion de constellation, dans le livre sur le spiritualisme français, on la trouve à propos de la deuxième école de technique. Donc, c'est le chapitre 8 de la deuxième partie du livre, la seconde constellation éclectique. Donc, j'ai distingué les philosophes transmetteurs et les philosophes indépendants pour un petit peu affiner le regard. Alors, les transmetteurs, j'en distingue trois. Émile Cesset. Cesset, c'était un spinoziste qui a fait la première édition savante des œuvres complètes de Spinoza. C'était un très bon philosophe. Il a fait un gros livre sur la philosophie religieuse et il a été oublié et est passé aux oubliettes d'une façon magistrale. Alors, il y a eu ensuite Charles Secrétan, qui lui a été un peu moins oublié parce que c'était l'unique philosophe de Lausanne. Il était suisse et il avait suivi les cours du vieux Schelling, c'est-à-dire les cours sur l'histoire de Dieu, parce qu'à la fin de sa vie, Schelling faisait cours sur l'empirisme spéculatif et sur l'histoire de Dieu, comme quoi l'histoire de la philosophie, c'était l'histoire de Dieu à travers l'humanité. Helme Caro, c'était le professeur à la Sorbonne. Caro a été l'initiateur à la philosophie de Lachelier. Bon, alors là, on voit comment il y a des transmissions qui se font, mais c'est une constellation. Et il est vrai que ça nous aide à mieux comprendre le mouvement des idées et le contenu. Parce que comment se fait-il que certains contenus philosophiques soient valorisés par rapport à d'autres? Bon, si on appliquait ça au XXe siècle, si vous voulez, le plus énigmatique des philosophes du XXe siècle, c'est Deleuze. Bon, Lévi-Strauss, dont j'ai parlé, et Michel Foucault, c'est pas du tout énigmatique, c'est le passage à l'histoire des idées. Il y a une sorte d'élimination des problèmes philosophiques proprement dit chez Foucault. Mais ça c'est simple. Tandis que chez Deleuze, c'est très ambigu, très compliqué à déterminer vraiment, mais il y a une constellation philosophique à la base. C'est que Deleuze fait des études de psychologie, pas seulement de philosophie. Il se tourne vers des esprits très différents, hein, comme Martial Guéroux en histoire de la philosophie et Bergson en métaphysique. Donc, on a un cas qui serait intéressant à étudier de près. D'ailleurs, comment est-ce que la philosophie a pu émerger? Bien, si on étudie le réseau à partir duquel elle émerge, c'est-à-dire en fait la constellation qui le rend possible, il est certain que Malvinet, professeur à l'Université de Lyon, et phénoménologue de tendance psychologisante et esthétique, Malvinet joue un rôle essentiel. Alors bon, les œuvres complètes de Malvinet ont été rééditées par les éditions du Cerf. Ce qui est intéressant, parce que, à la limite, personne n'a réédité les œuvres complètes d'un spiritualiste du XXe siècle, qui est Jean Val. Jean Val était professeur de métaphysique à la Sorbonne, mais il n'a pas eu l'heureux sort de Malvinet, parce que s'il n'y a pas d'édition, ben on peut toujours chercher, hein, on ne trouve pas. Il y a des bibliothèques. Moi, j'ai eu la chance qu'à Poitiers, la bibliothèque universitaire de Poitiers avait un beau fonds de philosophie française du XIXe siècle. Ce n'est pas du tout évident, ça. C'est un hasard heureux qui fait qu'il y a eu quelques relais et quelques enseignants qui ont demandé à avoir des livres. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer, m'a-t-on dit, de remettre un peu le flash, enfin, sur Léon Brunswick. Je dois vous dire que Léon Brunswick, moi, je n'en ai jamais parlé dans mes cours, et la seule fois où j'en ai parlé, à propos d'un livre de Léon Brunswick, il a fait des gros pavés d'inspiration spiritualiste, mais il était philosophe des sciences et spinoziste. Eh bien, les étudiants auxquels j'ai parlé de ça ont ouvert des grands yeux, parce que Léon Brunswick, personne ne leur en avait jamais parlé. Et c'était un esprit très ouvert et en même temps très connu. Il y a évidemment, à mon avis, il y a des sauvetages à faire c'est une bonne idée que la revue de métaphysique et de morale ait le projet. Est-ce que ce projet se réalisera? On verra. Mais le projet de faire un gros numéro sur l'œuvre de Léon Brunswick, qui aujourd'hui n'est pas du tout connue. Alors voilà un peu comment j'ai procédé. Alors je ne parle pas du tout du XXe siècle, hein. C'était prévu pour un autre volume. Mais enfin, il faut essayer d'y arriver, parce que le XXe siècle, en un sens, c'est un peu plus facile que le XIXe siècle, parce que le début du XXe siècle, jusqu'à 1950, là, ou même 1940, hein, le début du XXe siècle, c'est relativement facile. C'est-à-dire que vous avez comme grand philosophe, il y a Brunswick, il y a Bergson, qui est quand même déjà un peu vieux, hein, c'est-à-dire Bergson, il ne publie que deux livres au XXe siècle, les deux sources de la morale et de la religion, et puis la pensée et le mouvant. Et puis, donc il n'y a pas seulement Brunswick et Bergson, mais il y a aussi Maurice Blondel. Maurice Blondel, qui n'avait pas voulu publier sa thèse sur l'action, publie une trilogie alors qu'il est aveugle et qu'il est obligé de dicter ses œuvres. Il publie une trilogie sur l'être et les êtres, la pensée et l'action. Et cette trilogie, c'est ce qui fait que Blondel a quand même été lu et discuté. Et, bon, Blondel est vraiment l'héritier des spiritualistes français du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il est, il est dans une autre voie carrément que Bergson, il est dans la voie de la philosophie réflexive, sans être un philosophe des sciences. C'est-à-dire qu'on voit clairement trois directions, la philosophie des sciences et la philosophie de la connaissance, qui est plus d'inspiration qu'ancienne, qui se manifeste avec Léon Brunswick et qui va être discutée par Sartre et par Merleau-Ponty. La philosophie réflexive, proprement dite, qui est celle de Blondel, qu'il appelle aussi philosophie de l'action, c'est-à-dire que l'esprit est acte. Ce qui paraît un petit peu superficiel comme ça, mais en fait, c'est une affirmation très bonne. L'esprit est acte, ça veut dire que l'esprit ne sera jamais capté dans une doctrine, il ne sera jamais figé. Si l'esprit est acte, ça veut dire que la liberté de l'esprit constitue la philosophie comme une activité et pas comme un système. Et donc, ça, c'est la direction de Blondel. Et puis, j'ai perdu la troisième. Qu'est-ce que je vous ai annoncé? En fait, il semble bien qu'il y ait trois directions. Alors, la troisième, c'est peut-être la réflexion sur la perception, c'est-à-dire la psychologie philosophique, qui a été très forte, hein. Et quand on regarde un petit peu les Anglais et les Américains, ils ont énormément utilisé William James et sa psychologie philosophique. Alors, voilà comment on pourrait essayer de penser le spiritualisme français au XXe siècle. Mais enfin, ça, c'est pas encore fait. Voilà, alors je vous dis un petit peu mon projet, comment je vais essayer de m'en sortir avec les difficultés habituelles qu'on rencontre quand on fait un livre d'une certaine ampleur. C'est beaucoup plus facile de faire un livre de 150 pages sur un sujet qu'un livre comme ça, qui essaie de faire une présentation synthétique, chose qui est d'un objet qui est tout le temps en train de vous échapper, hein.